Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous, juste un mot avant l'épisode d'aujourd'hui, qui est donc le dernier épisode inédit avant la coupure estivale, et qui est, bon, je ne sais pas très bien comment l'écrire, mais disons qu'il y a une réflexion avec l'écrivain, analyste, témoin, qui est Gérard Chalian sur la guerre irrégulière, et en même temps un voyage dans les insurrections et les guérillas de la seconde moitié du XXe siècle, dont il a vu et vécu de près un nombre étonnant et qui décrit... Depuis donc les prémices de la guerre d'Algérie au début des années 50 jusqu'au Kurdistan, à la situation du Kurdistan contemporain. J'espère que c'est donc un épisode qui vous plaira pour terminer l'année et la saison, puisque c'est, bon, c'est une émission et un témoignage que j'ai trouvé vraiment assez marquant. J'en profite surtout pour vous souhaiter à nouveau un très bel été. On va donc continuer des diffusions, comme je l'ai déjà dit il y a quelques semaines. Mais ce sera des rediffusions à partir de la semaine prochaine, sur le créneau habituel, donc du mardi matin, 8h, pour accompagner ceux qui le désireraient pendant l'été, disons faire des recommandations. Mettre un petit coup de projecteur sur des épisodes anciens et qui valent la peine d'être réécoutés, à mon avis, même plusieurs mois ou maintenant plusieurs années après leur première diffusion, c'est aussi l'un des objectifs de l'émission que de proposer des réflexions qui tiennent le coup et l'épreuve du temps autant que possible. Très bel été à tous et bonnes vacances donc à tous ceux qui ont la possibilité d'en prendre et on se retrouve évidemment pour de nouveaux épisodes à la rentrée de septembre. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Gérard Chalian, auteur, théoricien, stratège aussi de la guerre irrégulière, ou de la guérilla en tout cas, observateur et acteur aussi dans un certain nombre de ces conflits irréguliers du XXe siècle, dont on va avoir l'occasion de reparler dans le détail, auteur de plusieurs dizaines d'ouvrages sur cette guerre irrégulière, tant sur le mode de la narration que de la compilation ou de l'analyse. On pourrait en citer beaucoup, je vais juste relever par facilité le dernier en date, qui est « Des guérillas au reflux de l'Occident », paru l'an dernier aux éditions Passé Composé. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur. Alors, les auditeurs qui vous connaissent déjà le savent, et ceux qui ne vous connaissent pas encore vont le comprendre vite, mais vous avez été un témoin direct, et un acteur aussi parfois, d'énormément des conflits irréguliers de la seconde moitié du XXe siècle, et on peut préciser que c'est un parcours qui commence alors que vous êtes tout jeune homme, dans une des luttes de décolonisation probablement les plus marquantes du XXe siècle, qui annonce beaucoup d'autres à venir, qui est la lutte pour l'indépendance de l'Algérie au début des années 50. Alors, pour entrer peut-être par là dans le sujet, Gérard Chalian, peut-être à peu près comme vous êtes entré dans la lutte anticoloniale, qu'est-ce qui vous a amené dans cette lutte, dans ce combat qui était politique à l'époque et qui est devenu ensuite un parcours intellectuel aussi, et qu'est-ce que vous y avez trouvé, qui vous a fait rester dans cet univers qui est celui du mouvement, disons, tiers-mondiste qui se constitue dans les années 50?
Alors, ce qui m'a amené en Algérie, à 18 ans, c'est la recherche de l'aventure. Ce que je voulais, c'est... une vie intéressante. Donc j'ai quitté la maison familiale. À l'époque, j'étais donc mineur, en ce temps-là, à 18 ans. Et je suis arrivé en Algérie et j'ai commencé à chercher du boulot parce que j'avais de quoi vivre deux petites semaines. Donc j'ai été laveur de vitres, j'ai été garçon de restaurant, plongeur, j'ai été représentant en photographie, etc. J'ai été aussi en autostop dans le sud algérien, jusqu'à Gardaïa et au-delà, El Goléa, et j'ai découvert la situation coloniale. Comment je l'ai découvert? La première fois que ça m'a frappé, c'est lorsque J'ai rencontré un jeune avocat algérien très sympathique avec qui on s'est comme ça lié et qui m'a dit moi je n'ai jamais eu un client métropolitain ou pied noir. Je suis pourtant diplômé de la Sorbonne, mais je peux traiter que pour les Arabes, comme vous dites. Et je suis en somme marginalisé. Non, c'est pas vrai, c'est pas une société égalitaire. Et ça pose problème, et ce qui passe d'ailleurs à l'heure actuelle en Tunisie et au Maroc, on va l'avoir en Algérie un jour ou l'autre. Nous sommes fin 52.
Oui, donc rappelons qu'on est déjà dans la dernière ligne droite vers l'indépendance de la Tunisie et du Maroc, mais que l'Algérie étant un département français, évidemment, c'est une situation très différente des deux autres protectorats.
Très, très compliquée, avec une occupation démographique non négligeable, un bon million de non-musulmans, en quelque sorte, et ça va poser problème. Donc quand les événements, comme on disait à l'époque, éclatent, en 1954, bon, moi j'ai pas été surpris, et dès 55, je suis pour l'indépendance de l'Algérie, contrairement à au Parti communiste français, qui, lui, voulait voir la véritable Union française, c'est-à-dire que quand il serait au pouvoir, eh ben, on verrait les choses de façon différente. Donc, en 56, ben, je suis dans diverses manifestations, etc. Et puis, à un moment, j'ai eu des contacts avec les réseaux de soutien, ce qu'on appelait le FLN. En langage journalistique, ça s'appelait les porteurs de valises. Ce que j'ai jamais été. Et
Les porteurs de valises, rappelons, c'est ceux qui amenaient de l'argent essentiellement ça. De métropole, voilà. Pour soutenir la lutte en Algérie.
Alors nous, par contre, nous faisions sortir des cadres du FLN en direction de la Suisse, de la Belgique, de l'Allemagne, et on faisait rentrer de ces pays-là des cadres pour la métropole. Ça se faisait avec deux voitures, à une époque où le portable n'existait pas. La première voiture, c'était la voiture ouvreuse. C'est elle qui signalait le plus rapidement possible, en rebroussant chemin, l'existence d'un barrage. Et puis, la voiture porteuse qui, elle, justement, pouvait emprunter une départementale et filer quand même. Voilà, ça se passait comme ça. Bon. Donc, lorsque l'Algérie est devenue indépendante... on m'a demandé...
Mais ça vous a plu ? Enfin, je veux dire, parce qu'on va voir que c'est pas oui. sans oui. lien avec ce que vous avez fait aussi après. Moi, oui, ça vous plaisait de le faire, même juste de le faire au-delà de la cause, quoi ?
Oui, ça m'a plu. C'est-à-dire que la clandestinité me plaisait. Moi, j'appartiens à une famille, comment dirais-je, où l'heure, c'est l'heure. Ma grand-mère était protestante. C'est la seule éducation religieuse que j'ai reçue et dont j'ai conservé l'éthique. C'est-à-dire la rigueur. Après, j'ai été éclaireur. Là aussi, l'heure, c'était l'heure. Et la clandestinité m'allait comme un gant. C'est-à-dire que, bon, à l'heure, organisé, aucun laisser-aller. Enfin, vraiment le truc totalement militarisé, au meilleur sens du terme, quoi. C'est-à-dire avec une capacité d'adaptation si la réalité se modifie entre-temps. Donc oui, ça me plaisait. Et j'ignorais complètement, moi, quand je me suis lancé dans les guérillas, que j'y étais préparé. Pour moi, c'était une surprise. Et en fin de compte, lorsque j'y ai réfléchi par la suite, je vois que tout m'y préparait. Le fait que j'aimais la nature, j'aimais coucher dehors, j'aimais les risques, j'aimais la vie physique, j'aimais, comment dirais-je, ce qui fonctionne avec organisation de façon à la fois souple et efficace. Voilà.
Et qu'est-ce que vous imaginiez, puisque donc, au moment de l'indépendance, donc en 62, ça faisait bientôt 10 ans que vous étiez en Algérie, si je compte correctement, est-ce que vous imaginiez y rester comme une sorte de, je sais pas, d'utopie de l'alliance en tant que territoire français n'a pas marché, mais peut-être que nous, les Européens qui étions en Algérie et qui avons aidé à l'indépendance, on aurait pu rester. Est-ce que vous saviez tout de suite que vous aviez envie d'aller ailleurs, faire autre chose ? Comment vous imaginiez l'après-indépendance ?
Bon, d'abord, il faut dire que j'étais peu politisé, pour moi, c'était au démarrage une réaction finalement morale, quoi. Hein. Par exemple, j'ai été, bouleversé par le fait que nous avions des éléments parmi nous qui torturaient, parce que quand on nous avait appris à l'école que c'était les nazis qui pratiquaient ce genre de méthode.
Parmi nous, vous vouliez dire des Européens en Algérie?
Oui, l'armée française, etc. Donc, nous, on avait l'impression, à tort ou à raison, de représenter, disons, la tradition française au sens la liberté, le droit à l'autodétermination, etc. Des choses qui étaient connues, c'est-à-dire qu'elles étaient proclamées, mais non suivies. Après tout, M. Guy Mollet avait été élu pour faire la paix. Bon, il a fait la guerre. Bon.
Guy Mollet, c'est donc en 56, et c'était censé être la fin de la guerre d'Algérie.
Exact.
C'est la pièce dans la machine.
Elle est repartie de plus belle. Et elle a quand même duré jusqu'à 62, avec des difficultés considérables en 58, ensuite avec des difficultés encore plus importantes en 62 avec le putsch de certains militaires comme le général Salan, etc. Enfin bref, c'était une période extrêmement tendue qui frôlait la guerre civile et que nous avons évité, que cela plaise ou non, grâce au général de Gaulle et sa détermination. Après l'indépendance, bon, les Algériens ont dit « Bon, ben, ceux qui nous ont aidés, si ça les intéresse de voir un peu l'expérience, ils peuvent venir nous donner un coup de main. » J'ai demandé à ma compagne, Juliette Mince, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te tente? Elle m'a dit, écoute, on n'a rien de spécial à faire. Oui, pourquoi pas? Ça a l'air intéressant, allons-y. Nous, on avait été très surpris par la crise de 1962 à l'intérieur du FLN. Des gens beaucoup plus intelligents sur le plan politique que nous, comme Jean-François Lyotard, avaient parfaitement compris que le FLN était un truc petit bourgeois, profondément anticommuniste d'ailleurs, et pas plus socialiste que bien d'autres, et qu'en définitive, c'était une querelle pour le pouvoir. Bon, nous, c'est ce qui nous a permis, pendant l'année où on a passé la période en Algérie indépendante, ça nous a permis de nous déniaiser. C'est-à-dire qu'on a vu le hiatus entre les déclarations et la réalité, entre le programme et les faits. Bref, on s'est fait une éducation politique sur le terrain, véritablement.
Et donc, vous avez eu envie de partir?
Donc, oui, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelait « L'Algérie est-elle socialiste ?». C'était très admis que c'était socialiste, la période Ben Bella, la période dite de l'autogestion, la période où le Parti communiste français les appuyait, la période où les marxistes-léninistes pro-chinois les appuyaient à 100%, etc. Bon, moi, je fais un bouquin disant « L'Algérie était socialiste » et la réponse est « non ». C'était un mouvement petit bourgeois qui tenait pas très bureaucratique et qui tenait pas du tout à marcher vers le socialisme. Et quant à l'autogestion, elle était coincée à l'arrivée et au départ.
Et du coup, vous, alors que vous étiez politisé pendant ce temps-là, il fallait trouver un nouveau front où la possibilité d'un socialisme paraissait plus réaliste.
Bah oui, j'étais intéressé par trouver des causes plus tranché. J'ai été voir en Yougoslavie pour voir si c'était effectif, l'autogestion. C'était décevant aussi. On voyait très bien que l'autogestion avait été confisquée par des petits groupes et que c'est eux qui décidaient souverainement de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Et avec des disparités régionales très très profondes qui se sont révélées par la suite comme très importantes. Et donc, la première rencontre de quelque chose qui était véritablement intéressant, en 1962, ça a été la rencontre avec Amilcar Cabral, certainement la figure révolutionnaire la plus intéressante du continent africain, avec le dirigeant d'Afrique du Sud, que vous connaissez.
Oui, qui est Nelson Mandela, effectivement. Mais Nelson Mandela était à l'époque dans une autre phase, disons, du combat révolutionnaire, enfin, dans d'autres difficultés. Mais c'est intéressant parce que, donc, il y a la première expérience algérienne, la plus proche, mais en vous lisant, notamment en lisant votre dernier ouvrage, donc, « Des guerriers au reflux de l'Occident », il apparaissait vraiment assez évident que dans une certaine mesure, l'expérience initiatique, c'est beaucoup plus la Guinée-Bissau au milieu des années 60, aux côtés donc d'Amilcar Cabral, qui lutte pour l'indépendance du pays face à la colonisation portugaise. Mais c'est là que c'est intéressant, et c'est pour ça que je dis que j'ai eu l'impression que c'était l'expérience initiatique, c'est que là, pour le coup, c'était pas que de la clandestinité, c'était du maquis, quoi. C'était ce que vous, bon, voilà, on va en reparler, mais ce que vous allez à faire pendant les 40 années et quelques qui suivent, c'est-à-dire c'est vraiment du maquis, de la guerre de partisans, de passer de village en village et de vraiment la lutte armée de guerriers héros, quoi.
Vous avez parfaitement raison. Pour moi, c'est l'expérience initiatique. C'est le terrain, le vrai terrain, avec un dirigeant intelligent qui connaissait bien sa société. Cabral, c'était un agronome qui avait fait une enquête pour le gouvernement portugais d'une année à l'intérieur des diverses paysanneries de son pays. Donc, contrairement à la plupart des dirigeants africains qui étaient des gens de l'extérieur, plus francophones et plus parisiens peut-être même, lui, il était vraiment de l'intérieur. Il connaissait bien sûr l'Europe, il parlait l'anglais couramment, le français couramment, le portugais bien sûr, mais il connaissait son terrain. Donc il avait envoyé ses cadres se former en Chine sans le dire, parce qu'à l'époque c'était le conflit sino-soviétique et il ne fallait pas du tout montrer qu'on était pour l'un ou pour l'autre. Et lui se tenait à l'écart de cette dispute. Ce qui l'intéressait, c'était de former des gens qui seraient capables de mobiliser les paysans, c'est-à-dire de pénétrer dans les villages, de rester dans les villages, de convaincre les villageois de l'importance de la lutte, du fait qu'il était possible de la gagner, d'éliminer les agents des Portugais, de procéder à des élections où il y aurait toujours une présence féminine, 3 hommes, 2 femmes, partant du fait que les femmes étaient très importantes en Afrique, et contrairement à ce qu'on pense, elles sont souvent même plus actives que les hommes. Et à partir de là, ça permettait d'avoir des jeunes qui faisaient les jeunes futurs guerriers héros, ils faisaient du renseignement, ils poussaient à la production, et le mouvement révolutionnaire leur apportait ce qui leur manquait, du point de vue des biens, puisqu'il n'y avait plus de circulation monétaire. C'était un échange entre ton riz contre mes étoffes, ou bien contre les bougies, ou contre ceci, contre cela. Puis en plus, on vous amène une institutrice, on vous amène un infirmier. Et de cette façon-là, le parti a réussi à conquérir une bonne portion du territoire.
Ouais, mais alors, puisque c'est l'expérience initiatique, il faut peut-être parler d'une dimension dont il faut voir à quel point elle est importante pour vous. C'est comment est-ce que vous découvrez la violence ? Alors après, avec tout le flou qu'il y a là-dedans, mais là, par rapport à ce que vous faisiez avant, bon, bah, c'est une lutte armée, quoi. Il y a des armes, il y a des tirs, vous parliez tout à l'heure d'éliminer des agents portugais, enfin, ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Donc, comment est-ce que vous découvrez la violence ? À quelle distance est-ce que vous en tenez aussi, d'ailleurs ? Est-ce qu'il faut mettre la main à la pâte ou pas ? Et est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça vous laisse indifférent ?
En ce qui me concerne, la violence ne me faisait pas peur. Je suis d'origine arménienne. Et pour moi, l'histoire de ma famille est assez différente de celle de la majorité des Arméniens. C'est-à-dire que moi, je détestais ce côté génocide avec les vieilles dames qui se plaignaient de ce qu'elles avaient perdu. Ce que je prends évidemment, ce que je comprends mieux aujourd'hui. Merci. Cette plainte ne me concernait pas quand j'avais 16, 18, 20 ans, etc.
Et oui, mais c'est-à-dire qu'il y avait en quelque sorte un contact avec des rescapés du génocide arménien, voilà, en fin de vie.
Mais l'histoire de ma famille, c'est mon oncle s'est battu côté français, parce que comme très peu de Français le savent, il y avait une zone de la Turquie actuelle qui faisait partie de la mouvance française avec la Syrie et le Liban, qu'on appelait la Cilicie. Et donc, mon oncle s'est battu avec le drapeau français, mais il était à la tête d'un village où il y avait à peu près 7 à 8 000 habitants. Et au terme d'un siège de 7 mois, où il a reçu très peu, parce que la nature alpestre, plus le peu de moyens que la France a laissé au général Brémond, qui était en charge de l'affaire, il est mort, les armes à la main. Bon, moi, c'est un exemple dont mon père me parlait, c'était son frère aîné. Pour moi, si vous voulez, quand les situations vous obligent, quand il n'y a pas le choix, on ne se rend pas. Voilà, c'est comme ça que je sens mon rapport au monde. Donc la violence, comment dirais-je, ça me... J'ai horreur de tout ce qui est exaction, tout ce qui est l'usage de la force ignoble, le viol, enfin tout ça. Oui, mais par contre, tenir, refuser de se rendre, se battre, bon, ça fait partie de la vie. Voilà. Donc la violence ne me gênait absolument pas. En plus, certainement que ça avait un côté attirant, en plus, disposer d'une arme, de s'en servir. On a rompu à un moment un encerclement. Bon, ben, moi j'ai tiré, bien sûr. Je veux dire, et sans état d'âme. Hein, il faut rompre le cercle pour pouvoir s'échapper, c'est tout.
Mais du coup, ça faisait partie aussi... c'est une question qu'on peut poser plus largement au cours de votre parcours, mais ça faisait partie d'une initiation. C'est-à-dire, c'était en quelque sorte un gage de prendre les armes pour s'intégrer, pour dire qu'on fait partie du groupe, qu'on fait partie de l'insurrection, de la guérilla.
Bon, disons que j'étais largement un sympathisant, ça n'y a aucun doute. C'est-à-dire que dans ma vie, par la suite, je suis devenu de plus en plus un observateur froid. Il y avait des causes dont je rendais compte sans être ému par ce qu'elles étaient. Par exemple, l'Érythrée, là, j'y étais... J'ai vu, comment dirais-je, la dimension totalitaire que ce mouvement comportait, je l'ai vu, et par la suite j'en ai vu d'autres, en Amérique latine, des révolutions avortées, enfin, par exemple, aujourd'hui, M. Ortega, qui a pris le pouvoir 20 ans après Cuba, aujourd'hui, il fait tirer sur ses compatriotes. Bon, donc les révolutions avortées, j'en ai eu un large échantillon, quoi. Des choses qui ont réussi, c'est une autre paire de manches. En plus, avec des difficultés considérables, jusqu'à réussir à dépasser la phase la plus dure, la plus obtuse, découvrir qu'en définitive le marché, bon, ben, ça existe, hein, qu'on ne peut pas diriger l'économie comme on dirige la guerre. C'est ce que les Vietnamiens ont découvert au terme d'une dizaine d'années d'errance. C'est ce que les Chinois ont fini par découvrir avec des campings, etc.
Ouais. Mais alors, juste pour revenir une seconde à cette Guinée, parce qu'il me semble que c'est vraiment un moment important. Il y a autre chose dont vous avez parlé, c'est qu'il y a un intérêt pour les villages, et c'est-à-dire pour le rural, dans la guérilla, et puis dans votre pratique de la guérilla, etc. Est-ce que vous pourriez simplement nous en parler un peu, cette idée que... Bon, voilà, on voit souvent la ville, et c'est souvent aussi lié au développement historique du marxisme, léninisme, qui se concentrait sur les mouvements ouvriers, mais qu'il y a un truc avec les villages, les villageois et, disons, les insurrections campagnardes, qui, en fait, représentent aussi l'essentiel des endroits où vous avez été, au final, au fil des années, quoi.
Non, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Le premier qui a découvert ça... connaissance, c'est Mao. Mao, bah, comme tous les Chinois de l'époque des années 20, ils étaient dans la mouvance de Moscou. Les Borodine et autres conseillers étaient là, ils disaient, voilà, il faut faire une insurrection urbaine à Canton, etc. Les insurrections qui ont été d'ailleurs écrasées dans les années 25-27. Et Mao, lui, qui avait eu l'occasion de faire une enquête pendant un certain nombre de mois à la campagne, s'était rendu compte que, oui, on peut mobiliser une partie de la paysannerie qui a soif de la terre. Et sans le dire, parce que c'était l'anathème contre Staline, sans le dire, c'était sa tendance. Et la longue marche, c'est-à-dire la période 34-35, où Moscou perd complètement le contact avec les Chinois, va permettre à Mao, justement, avec quelques compagnons, des généraux, etc., qui comprennent la situation aussi, de mettre en pratique cette importance de la paysannerie qu'il faut mobiliser. Et comment est-ce qu'on la mobilise ? Pour la mobiliser, il faut des cadres. Il faut former des cadres qui parlent le langage de la paysannerie, pas la langue, le langage, et réussir à les introduire sur la durée, qu'on ait confiance en eux, qu'ils soient capables de démêler ceux qui sont les agents de l'État colonial ou de l'État oppresseur, et puis ceux qui sont pour un changement, et petit à petit de s'emparer en quelque sorte du pouvoir à l'échelle du village, de faire une élection avec trois hommes, trois femmes, et Mao disait « elles sont la moitié du ciel » dans le vocabulaire imagé qu'utilisent les Chinois. Et grâce à ça, sa révolution s'est enracinée de façon solide, notamment lorsqu'il a eu la chance, en luttant contre les Japonais, de se présenter non seulement comme quelqu'un qui voulait une réforme pour les paysans, mais aussi comme un nationaliste résistant à une agression étrangère. Et grâce à ça, grâce au fait que l'Union soviétique n'était plus présente, qu'il faisait ce qu'il voulait, dans une situation d'isolement considérable, ni les Anglais, ni les Américains ne pensaient qu'il pourrait gagner en 1949, entre 47 et 49, et il l'a emporté alors que Staline lui avait suggéré de faire un gouvernement d'union nationale avec Chiang Kai-shek. Donc le monde bascule, et qui va en profiter ? Les seuls qui étaient présents à l'intérieur de la Chine, qui s'étaient formés également, les Vietnamiens. Les Vietnamiens vont être véritablement les héritiers, ils vont adapter les choses à leur propre réalité, et c'est nous, Français, qui allons être surpris par ce changement considérable, alors que nous, on s'intéressait à dire « nous tenons tant du territoire », eux disaient « nous tenons tant de la population ».
Alors c'est très intéressant, parce que ça nous ramène à votre parcours à vous, parce que donc il y a la Guinée, et puis la Guinée, bon, Amilcar Cabral finit assassiné. Bon, c'est une révolte qui est finalement une révolution, qui est une indépendance qui finalement accède, mais vous partez à ce moment-là, et c'est le moment où vous évoluez vers d'autres guérillas révolutionnaires qui sont aussi très très emblématiques du XXe siècle. Alors c'est le Vietnam.
Le Vietnam, très important. Pour moi, ça a été la grande leçon. C'est là où j'ai appris.
Alors après, on parlera évidemment de la Colombie et d'autres choses, mais comment est-ce que vous passez de l'un à l'autre ? Comment est-ce que vous partez de Guinée et que vous vous retrouvez assez littéralement à l'autre bout du monde, dans une guérilla qui est en plus sur un ancien territoire français ? Vous revenez en quelque sorte, après l'Algérie, sur les traces des anciens territoires français.
D'abord parce que le Vietnam combat les États-Unis, hein, dans une lutte...
Donc là, on est dans la deuxième moitié des années 60.
Voilà. Totalement illégal. Moi, c'était en 1967, pendant la période des bombardements du Nord-Vietnam, qui était fait pour... On va vous bombarder le temps nécessaire à ce que vous arrêtiez d'aider le Sud. Et de cette façon-là, on va écraser le Viet Cong. Et la détermination des Nord-Vietnamiens, c'était « nous ne céderons sous aucun prétexte, à aucun prix ». Bon, moi, j'admirais ce côté-là. Il y avait chez les Viet, comme d'ailleurs, comme tout le monde peut le constater aujourd'hui, dans cette Asie orientale, Japon, Chine, Taïwan, Singapour, Vietnam, Corée du Sud, quelle que soit la nature du régime en place, une population de gens coriaces, des riziculteurs, habitués à un travail difficile, et qui, ont des traditions étatiques. C'est le cas des Chinois, c'est le cas des Japonais, c'est le cas des Viet, c'était des conquérants. Et de ce côté-là, ça vous change beaucoup les Latinos, où les mecs n'arrivent même pas à l'heure, et où y a la gestuelle l'emporte sur l'efficacité. Enfin bref, le monde n'est pas pareil du tout. Je ne veux pas distribuer les bons points à gauche et à droite, mais une connaissance effective du terrain vous amène à constater qu'il y a des différences qui sont nées de la géographie, de l'histoire, etc. Exemple, les Vietnamiens, pour survivre, ils sont obligés de faire des digues parce que le fleuve rouge, quand il déborde, c'est la catastrophe. Donc il faut des digues qu'on collectivement colmate chaque année. Ça vous donne une habitude du travail ensemble, de la cohésion et une rigueur. En Égypte, don du Nil, comme disait l'observateur grec,
Hérodote. C'est...
Voilà, Hérodote. Le Nil, jusqu'à la construction du barrage d'Assouan, déborde en semence, en quelque sorte, et retourne dans son lit. Il n'y a qu'à attendre. Ça ne forme pas du tout le même type d'homme. C'est des choses qu'on constate sur le terrain. Enfin, peut-être qu'il y a des géographes qui savaient ça. En tout cas, moi, je l'ai vu sur le terrain. Bon. Et les Vietnamiens, donc...
Mais ça, vous le saviez que c'était... Enfin, quand vous partez donc en 67, vous partez après quoi ? Vous courez après quoi ?
Quand je pars quelque part, je lis en anglais et en français, ou dans d'autres langues, puisque je parle l'espagnol, l'allemand, etc. Mais enfin, essentiellement dans ces deux langues, je lis tout ce qui concerne le pays, sa culture, sa religion, etc. C'est-à-dire que j'arrive quelque part en ayant, en quelque sorte, une connaissance abstraite, historique, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils drainent, de ce qu'est leur substrat, en quelque sorte, culturel. Voilà, leur héritage culturel. J'ai, à cet égard, les langues orientales, où j'ai été pendant 3 ans, là, les langues orientales, en matière de langue, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai essayé d'apprendre l'arabe, trop dur. J'ai essayé d'apprendre le russe, je connais 1000 mots, je me débrouille, j'ai été turc, etc. Mais par contre, j'ai étudié très sérieusement l'histoire de la Chine, l'histoire de l'Inde, l'histoire de l'islam. C'est-à-dire que je couvrais, à une période où nous étions totalement européo-centrés, plus les États-Unis, le reste du monde, pour essayer justement de plonger dans ces cultures et ne pas être un étranger. C'est-à-dire, et puis alors, comme j'ai beaucoup vécu, et la plupart du temps, dans des conditions extrêmement difficiles, par exemple avec ma compagne, on est allé en stop jusqu'en Inde en 1959, un long voyage de plus de 6 mois, et à travers l'Iran, le Pakistan, la Turquie, etc., etc., et où on vivait, en couchant dans les halls de gare, en prenant le train sans billet, et en étant un cran au-dessus de la population la plus misérable. C'est là qu'on a découvert, d'ailleurs, que la non-violence gandhienne, c'était une merveille gandhienne qui est morte avec Gandhi. C'est-à-dire que c'était une violence entre castes fantastique, avec un mépris total de ceux qui n'appartenaient pas à la bonne caste, etc. Donc, c'est-à-dire que vous perdez en quelque sorte toute cette mythologie exotique qui fait que, ah ouais, l'Inde, très chouette, ou, vous voyez ce que je veux dire. Vous payez le prix. En général avec les intestins, d'ailleurs. C'est la partie la plus faible de l'individu.
Et donc, dans cette... Donc, il y avait l'expérience corporelle, l'expérience du voyage avant. Il y a eu l'expérience de la guérilla en Guinée, puis au Vietnam. Et alors, on va passer au chapitre suivant, évidemment. Mais qu'est-ce que vous avez retenu du Vietnam, de ce que vous y avez vu dans la guérilla ?
L'excellence de l'organisation, c'était déjà surprenant en matière de capacité organisationnelle, de capacité d'adaptation, la capacité de mobilisation. Tout était serré, pensé, ils donnaient leur succès, ils parlaient très peu, au contraire, de ce qu'ils subissaient, c'est-à-dire qu'ils tenaient beaucoup à conserver le moral. Et j'ai appris ce que c'est que une société qui est dressée pour tenir le coup. J'imagine que ceux qui ont connu Londres pendant le Blitz ont connu quelque chose de similaire. Les Anglais, ils ont quand même montré autre chose que nous quand ils ont été face à l'événement de 40, 41.
Et alors, pourquoi est-ce que vous en êtes parti? Ce qui pose la question plus large de pourquoi est-ce que vous partez d'un endroit à chaque fois. On comprend l'Algérie parce que bon, ça allait plus. La Guinée parce que ben, il y avait plus Cabral et puis ça devenait autre chose. Pourquoi est-ce que vous êtes parti du Vietnam? C'était plus le moment? C'était pas votre place?
Non, il y a une chose qu'il faut savoir. C'est que dans toutes ces sociétés, vous êtes le bienvenu si vous êtes là pour porter témoignage. Bon. Quand vous avez fait le tour du problème, il faut partir, parce que si vous prétendez rester, alors là, vous êtes d'un seul coup l'intrus. Voyez, on n'est plus l'observateur bienveillant ou le type qui est de passage, mais qui va vraiment vous rendre service, rien que en faisant connaître ce que vous faites. Non, si vous vous incrustez, vous êtes de trop. En d'autres termes, c'est la différence entre celui qui passe et celui qui voudrait un visa d'immigrant.
Alors ensuite, c'est la phase où vous allez en Amérique latine. Alors oui. Ce sera d'abord la Colombie, plus tard ce sera le Salvador, mais bon, c'est d'abord la Colombie. Mais c'est important dans la constitution, en quelque sorte, de votre pensée de la guérilla et des luttes insurrectionnelles, parce que c'est évidemment un des grands terrains de tout ça, à ce moment-là, c'est-à-dire dans les années 70, puisque c'est l'influence cubaine. On n'est pas si loin de la révolution cubaine qui, en plus, a fait ce choix un peu baroque, mais d'une révolution qui ne pouvait que s'étendre, qui devait s'aimer des foyers un peu partout, notamment sur le continent américain. Déjà, quelle idée vous vous en faisiez? Est-ce que vous étiez émerveillé par... ce qu'on appelle le mythe du Foucault, c'est-à-dire mais est-ce que vous étiez émerveillé par cette idéologie insurrectionnelle cubaine? Et ensuite, est-ce que c'est ce que vous y avez trouvé, une fois que vous y avez été?
Oui, alors, en ce qui concerne Cuba, Bon, bien sûr, en 59, quand ils ont pris le pouvoir, j'aimais bien cette idée qu'ils aient réussi finalement à s'emparer du pouvoir contre un type qui était notoirement dans la corruption la plus totale, etc., etc. Par contre, quand je suis allé en 1967, non, en 61, oui, je suis allé la première fois en 61. Donc en 61, c'était très sympathique, il y avait un côté, on va faire des ans d'une nouvelle Sierra Maestra, etc. Bon, il y avait le côté romantique, etc., où je n'étais certainement pas insensible. Plusieurs années plus tard, c'est-à-dire en 67, lorsque j'y suis retourné comme représentant du tribunal Russell, un tribunal où j'avais témoigné sur la guerre du Vietnam, j'étais beaucoup mieux armé. Je ne partageais pas du tout la théorie du Foucault, c'est-à-dire la théorie selon laquelle il n'est pas nécessaire de faire une politisation de la population. On passe à la lutte armée directement, et l'exemple enthousiasmant de ceux qui entament la lutte armée amènera la population derrière vous. Alors c'est ce que Guevara avait tenté d'exprimer dans la guerre de guérilla, que nous avons traduit d'ailleurs de l'espagnol avec Juliette Mas chez Maspero. Alors il oubliait, Guevara, de dire qu'à cette époque-là, Castro n'avait jamais dit qu'il était marxiste-léniniste. Il disait, nous faisons une révolution pour le pain et la liberté. D'où, il y a eu aux États-Unis une sorte de neutralité bienveillante, renforcée par les articles qu'écrivaient très franchement des types du New York Times ou du Washington Post, disant, ces barbus sont très sympathiques et le régime est pourri. Et beaucoup de gens les rejoignaient parce que, bon, ils avaient horreur du régime de M. Batista. Par la suite, quand les guérillas ont commencé à vouloir faire la théorie du Foucault, ils se sont rendus compte que, un, pas si facile, les paysans ne vous attendent pas pour vous rejoindre, ils ont peur de la répression, ils sont coincés entre vous qui leur dites « allez, revenez », et puis les autres qui disent « surtout bouge pas, sans ça t'es mort ». Ensuite, les Américains disaient « ah bon, on va tout de suite envoyer des forces spéciales pour épauler la répression », ce qui fait que la plupart des guérillas issus du Foucault ont été écrasés avant même d'avoir pu faire leur travail. Je l'ai constaté par exemple au Pérou, je l'ai constaté en Bolivie bien sûr, et dans d'autres pays. Donc la mieux, comment dirais-je, structurée, c'était celle de Colombie parce qu'elle datait d'avant et il y avait une certaine organisation. Enfin moi, à titre personnel, j'ai été déçu. J'ai été pris en charge par un petit groupe qui devait mener à Manuel Marulanda, qui était le type qui dirigeait le truc. Et à la première, comment dire,
rappelons rencontre... que c'est les ancêtres directs des FARC d'aujourd'hui. Enfin, c'est ça. Oui. Donc, qui a beaucoup évolué depuis 40 ans, mais c'était ça, quoi. Oui. C'est ça.
Alors,
mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire, vous débarquez en Colombie. Il n'y a pas de bureau central des FARC pour les observateurs étrangers.
Non, mais j'ai des contacts. C'est-à-dire que. Qu'est-ce qui se passe, si vous voulez? Quand je suis par exemple en Guinée-Bissau, je connais tous les autres Africains. Quand j'étais en Algérie, qui était le centre, en quelque sorte, avec la période Ben Bella, de tous les mouvements de libération africains, je connais tous les mouvements de libération africains. Ensuite, quand je serai ailleurs, bon, mes bouquins sont traduits en anglais, en espagnol. On me lit. Pourquoi on me lit? Parce que les gens qui sont dans la même situation vous lisent pour savoir comment les autres font. Et quand vous leur dites « est-ce que je peux venir ?», ils disent « oui, c'est très bien, il va peut-être comparer ou il va faire un truc sur nous qui est intéressant, etc. » Donc, c'est un petit milieu, en définitive, où vous n'êtes pas inconnu. Donc, quand j'arrive en Colombie, je connais une Colombienne appartenant au Parti communiste local, que j'avais rencontré à Cuba en 1961 et en 1967. Donc elle m'a facilité l'accès au type du FARC, et ils m'ont dit, voilà, tu prends le bus à tel endroit, tu vas te retrouver à tel endroit, et il y aura un type qui va te récupérer, puis après ça, ils vont te mener. Bon, le type n'était pas là, mais enfin, j'ai attendu. En Amérique latine, il faut savoir attendre. Et à la fin, il y a un mec qui est venu, bon, et ils m'ont emmené dans une baraque, et ensuite, il y a deux mecs qui m'ont dit, bon, ben voilà, trois mecs, tu viens avec nous, on va à la montagne, et c'est 7-8 jours de marche, et puis tu vas rencontrer Manuel Marulanda. Au troisième jour, il y a eu un accrochage, et les trois mecs se sont barrés. Et je suis resté tout seul.
Mais avec donc des forces de l'armée colombienne.
Oui. Alors, un truc impensable au Vietnam. Au Vietnam, il y avait un mec qui était chargé, en cas de bombardement, de se foutre sur moi. Regardez.
Pour protéger l'observateur.
Pour protéger l'observateur. L'année précédente, il y a une nana bulgare qui avait été sauvée comme ça parce que le Vietnamien qui était chargé de la protéger, lui, était mort. Bon. Donc, je suis tombé
sur... Le Colombien est moins solidaire que le Vietcong.
Moins discipliné, moins tout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas la même armature. Non. Il y a beaucoup de gestuel, de machisme, un mot, quoi, finalement. Oui, c'est ça. C'est le côté macho, ouais, moi, tout ça. Moi, j'ai horreur de ça. Je veux dire, j'aime les mecs sobres. Latins, mais au sens romain du terme, hein, pas la tchatch.
Et du coup, donc vous êtes paumé dans la forêt amazonienne seul. Oui, c'est pas une situation très enviable, dit comme ça.
Alors, j'ai eu la chance de ne pas être repéré. J'ai dormi 2-3 nuits comme ça, et j'ai réussi à trouver de l'eau. Je suis redescendu sur une route, et puis j'ai hélé un camion qui m'a dit « je vais à tel endroit ». Je lui ai dit « bon, aussi, je parle espagnol ». Donc, je suis arrivé là, j'ai loué une petite chambre, je me suis douché, et puis je suis retourné dans la capitale, où j'ai rencontré la fille qui m'avait branché. Elle m'a dit « écoute, nous, on aimerait bien que tu parles pas de ça. Voilà, c'est pas bon pour nous, ça. » Bon, j'ai dit d'accord. 20 ans après, je l'ai raconté. Enfin, voilà.
Mais du coup, vous n'avez jamais rencontré Marulanda ?
Non. Non, non, il est mort. C'est tout ce que je sais.
Mais alors, c'est intéressant, parce que ça, y a une vous avez fait référence très, très rapidement en passant à Maspero. Qui était évidemment un éditeur, alors maintenant c'est devenu La Découverte, qui ont gardé le catalogue et la lignée, mais Maspero était un personnage très important dans le Paris de ces années-là, disons socialisant, favorable aux luttes insurrectionnelles ailleurs.
Sur les luttes coloniales ou, comment dirais-je, révolutionnaires, il a été le numéro un avec... avec les éditions de Minuit, quoi.
Ouais, mais alors du coup, est-ce que vous pourriez nous parler peut-être un peu de ce que c'était ce milieu ? Parce que, bon, il y a une référence qui est aussi assez importante, qui est présente beaucoup dans vos écrits, qui est Régis Debray, qui non seulement fait des crapahutes un peu comme vous à cette époque-là, mais publie aussi, théorise aussi les luttes insurrectionnelles. Donc, je sais pas, qu'est-ce que c'était que ce milieu ? Est-ce que vous étiez nombreux ? Et qu'est-ce qu'il est devenu, en quelque sorte ? Comment est-ce que, disons, ce groupe-là, parisien, enfin, dans une certaine mesure, a évolué au fur et à mesure que les luttes indépendantistes aboutissaient ou pas, d'ailleurs ?
Bah, c'est un groupe, en quelque sorte, né des circonstances historiques, à une époque qu'on appelait tiers-mondiste, Asie, Afrique, Amérique latine, à une époque où l'influence de Fanon était importante, à une époque où il fallait se mouiller si on était d'accord, et qui, avec un certain courage, bon, se sont lancés dans des choses. Par exemple, Maspero, ben, ses bouquins ont été saisis, il a été dans des difficultés financières considérables, c'est pas facile. Bon, ensuite, le noyau, ben, il y a des gens qui ont continué, par exemple Nils Anderson. Bon, il n'est pas mort, c'est un garçon qui continue d'écrire des choses sur ce qui se passe ici et là. Il y en a d'autres qui ont disparu, Émile Kupferman est mort, etc., etc. C'est-à-dire, c'est une génération qui, aujourd'hui, si elle était vivante, aurait 87 à 90 ans. Et donc, la plupart sont disparus. Ils ont rempli une fonction indiscutable. Et jusqu'au moment où, en définitive, le tiers-mondisme est devenu à la mode. C'est 68, à cet égard, a été très important. C'est-à-dire que 68 a démocratisé le mouvement et en même temps, il l'a, en quelque sorte, commercialisé. C'est comme ça. Et donc, on a vu des tas de rêveurs plus près à, comment dirais-je, à aller bâtir une ferme écologique autour du Massif Central, ou bien arriver d'une solution alternative, etc., etc. Peut-être c'est les premiers écolos également. Enfin, toujours est-il que ça a imprimé indiscutablement quelque chose d'important, parce que nous sommes passés d'une mentalité, disons, coloniale, très répandue, à une mentalité très nettement post-coloniale. Ça s'est passé dans ces années-là, c'est-à-dire entre 56 et 68, il y a une douzaine d'années, où la France subit une importante mutation, et ces gens-là ont été certainement parmi, comment dirais-je, les plus actifs. Voilà.
Oui. Alors, c'est aussi la période juste après, donc après, donc vous avez fait l'Afrique, vous avez fait l'Asie, vous avez fait l'Amérique. C'est le moment où vous découvrez encore quasiment un nouveau terrain, puisque c'est une période où vous vous intéressez de plus en plus aux problèmes, aux conflits israélo-palestiniens, notamment en suivant un certain nombre de groupes palestiniens en Liban, en Jordanie, en Égypte, enfin partout où ils luttaient de l'extérieur en quelque sorte. Contre Israël, Israël naissant. Mais c'est intéressant parce que, alors que vous étiez, donc on le voit très clairement situé du côté de ces luttes insurrectionnelles, etc., le conflit israélo-palestinien, c'est un cas étonnant où vous prenez position assez tôt. Bon, alors vous suivez des groupes palestiniens, donc on sent bien que vous avez des sympathies évidentes, mais en même temps vous prenez position assez tôt pour dire que c'est pas un nouveau Vietnam, comme c'était parfois présenté. Et en gros, pour critiquer la stratégie de l'OLP qui vous paraissait bon, assez irréaliste dans l'ensemble dès ces années-là, donc après la guerre des six jours, un peu avant la guerre du Kippour. Donc pourquoi et bon, quelles conséquences a eu en quelque sorte dans votre parcours cette question palestinienne au tournant des années 70 ?
Oui, avant de répondre à votre question qui est tout à fait intéressante, je vais en finir avec l'Amérique latine. Invité donc à cette conférence de l'OLAS, l'Organisation de solidarité latino-américaine, et j'ai pris position publiquement contre la théorie du Foucault à un moment où Guevara était encore vivant, et en disant « ça ne marchera pas ». Et effectivement, trois mois après, Guevara disparaissait. Alors le mythe Guevara existe parce qu'il a eu le courage de vivre sa vie selon ce qu'il estimait être juste. Hein. Donc il est mort de façon cohérente. Mais comme théoricien, très franchement, c'était une extrême faiblesse. Le théoricien important dans cette période, enfin des 50 dernières années autour de ça, c'est Mao, indiscutablement. C'est Giap.
Donc Giap, indochinois, enfin de la lutte indochinoise pour l'indépendance.
Oui. Guevara, c'est le dernier héros blanc. Voilà. Cette formule va vous paraître bizarre, mais tous les héros blancs sont cinématographiques depuis. Voilà. Alors revenons à votre question là. Oui, en ce qui concerne le conflit israélo-arabe, les positions étaient en général très tranchées. C'est-à-dire qu'au démarrage, les gens étaient à 90% pro-palestiniens et à 10% pro-Israël. Moi, personnellement, j'avais, comment dirais-je, une sympathie sentimentale pour la dépossession des Palestiniens, d'accord ? Mais en aucun cas, je ne voulais voir la destruction d'Israël. Je trouve qu'ils avaient payé suffisamment cher pour avoir le simple droit d'exister. Et en 1967, alors que, à tort ou à raison, le monde avait pensé qu'ils allaient pouvoir être balayés, à une période où les États arabes étaient d'accord pour les effacer de la carte et Ahmed Choukheiri, qui était le représentant au Caire de l'OLP de l'époque, avait dit « on va jeter les Juifs à la mer », bon, ils auraient pu, s'ils avaient été, comment dirais-je, non démocratiques, ils auraient pu entièrement pousser à la déportation l'ensemble des Palestiniens, qui étaient trois fois moins importants en nombre qu'aujourd'hui, vers ce qu'on appelait la Transjordanie, où depuis d'ailleurs la majorité de la population est palestinienne. Bon, ils ne l'ont pas fait. Je suis sûr que quand l'État s'est droitisé avec un type comme Netanyahou, ils ont dû se mordre les doigts en disant « on a été vraiment trop gentils à l'époque ». Bon, maintenant, je n'aime pas du tout l'attitude qu'ils ont. Ceci dit, il n'y aura pas deux États, il ne faut pas rêver. Moi, c'est mon côté géographe. On est dans un mouchoir de poche. C'est 20 000 km carrés, Israël. Plus la Cisjordanie, ça en fait moins de 5 000. Et on va faire deux États là-dedans, alors que tout le reste, c'est le monde arabe. Et très, alors là, moi, je n'hésite pas à le dire. Et ils en font quoi? C'est quand même lamentable de voir ce que les États arabes ont pu faire, à part vociférer et s'entre-déchirer depuis maintenant une quarantaine d'années, si ce n'est pas, davantage. Bon, voilà. Donc,
À ce moment-là,
il n'y a pas de solution juste dans cette affaire.
Ouais. Mais donc à ce moment-là, quand vous prenez position, quand vous vous y intéressez, mais sous l'angle de la guérilla, c'est-à-dire sous l'angle de ces luttes que vous connaissiez quand même bien maintenant, vous aviez eu quand même un échantillon assez représentatif. Au-delà des positions de principe, qu'est-ce qui vous est apparu? Qu'est-ce qui allait,
Ce qui m'a apparu sur le terrain, c'est que ce que les Palestiniens pratiquaient, c'était des opérations de commando ratées, et jamais ils n'ont été capables de mener une guérilla à l'intérieur des territoires occupés. Jamais, jamais, jamais. Et les Israéliens, eux, ils ont été intelligents dans la contre-insurrection. Par exemple, si quelqu'un avait hébergé un, entre guillemets, terroriste, et en général, ce qu'on pratique dans ces cas-là, c'est on fait sauter la baraque du mec, et on bute les habitants. C'est-à-dire, ça leur fait une leçon. La prochaine fois, le type qui va accorder l'hospitalité doit savoir qu'il risque sa peau. Bon, les Israéliens ont choisi de laisser la vie sauve à tout le monde, sortaient, et ils faisaient sauter la baraque. C'est-à-dire, ils commettaient un dégât matériel très important, mais vous aviez la vie sauve. Dans d'autres termes, il n'y avait pas le sang, cette chose qui fait qu'on veut se venger. Et quant aux Palestiniens, ben jamais ils n'ont dépassé le niveau commando. Ils ont surtout fait des opérations à l'extérieur. Bon, c'est très facile, il suffit de frapper une synagogue ici, ou bien une population juive quelque part, en Amérique latine ou ailleurs. Bon, c'est-à-dire, La direction politique palestinienne a été en dessous de la situation. Et ils n'avaient aucune chance de s'en sortir avec leur illusion selon laquelle les États arabes étaient prêts à tout pour les aider. et que le temps travaillait pour eux. Il y a une phrase qui m'a été dite par le type qui dirigeait les services spéciaux israéliens. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit Arafat ? Alors, je lui ai dit, Arafat, il m'a dit, le temps travaille pour nous. Et lui, il m'a dit, la prochaine fois que tu vois Arafat, parce qu'on se tutoie facilement en anglais, la prochaine fois que tu vois Arafat, dis-lui que le temps travaille pour ceux qui travaillent pour lui. Une phrase que j'ai jamais oubliée.
Mais alors, qu'est-ce que ça a fait, cette prise de position, même au sein du milieu tiers-mondiste ? Enfin, je veux dire, tout ce que vous disiez, c'était 10% pour Israël.
Oui, ben moi, ça m'isolait, mais enfin, j'avais l'habitude, hein, je veux dire que l'anticolonialisme dans les années 50 en France, c'était pas très très bien vu non plus, surtout si on était côté FLN. Ensuite, le fait de dire que, bon, Israël ne doit pas être détruit, c'était mal vu par ceux qui étaient pro-arabes à 101%. Il y avait ceux qui disaient, avec Guevara, ça va marcher formidablement, et puis si vous disiez, non, le Foucault, c'est pas sérieux, vous vous faisiez incendier par certains. Enfin bref, il faut avoir le courage, quand on pense que l'état des lieux que vous établissez est correct, que c'est effectivement les faits et non pas une opinion, mais les faits, ben il faut se battre. Voilà, donc j'ai essayé ça et je continue.
Mais alors ça pose aussi la question de la trajectoire politique, plus généralement, puisque bon, on a vu que vous êtes parti quand même de l'anticolonialisme et des guérillas vraiment socialisantes, et d'aller chercher la guérilla socialisante là où elle se trouvait, notamment en Guinée puis au Vietnam. Et puis, c'est le moment où donc, vous vous en distanciez, vous prenez des distances aussi avec certaines prises de position, Guevara, etc. Et puis, vous vous mettez aussi à suivre des guérillas, bon, si ce n'est anticommunistes, mais au moins plus autonomes, disons, par rapport aux mouvements socialisants. Par exemple en Afghanistan, au début des années 80, où c'est une insurrection qui est anti-soviétique. Alors on peut dire que l'URSS n'est pas le socialisme et qu'il peut y avoir d'autres modalités de socialisme. Et n'empêche que c'est quand même une opposition frontale à l'URSS. Ça va continuer après, hein, vous allez devenir dans une certaine mesure de plus en plus observateur. Donc la question c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui vous avait fait sortir en quelque sorte de ce positionnement vraiment engagé, militant ? Investi pour la cause et devenir de plus en plus observateur. Est-ce que c'est que la chose vous intéressait de plus en plus intellectuellement ? Est-ce que c'est aussi éventuellement le fait que ça fatigue de lutter pour des causes qui éventuellement n'aboutissent pas ?
Bah, c'est-à-dire que c'est le constat que l'écrasante majorité de ces guérillas vont déboucher sur des révolutions avortées. C'est quand même important, ça. À partir du moment où vous avez constaté que tout ça...
Non, mais c'est vrai qu'il faut le préciser aussi, parce qu'on se souvient des guérillas réussies. Bon, là, Vietnam, Guinée,
oui, Algérie... Oui, il y en a deux, trois de réussies, puis c'est tout. Aujourd'hui, par exemple, depuis maintenant plus de 20 ans, la Guinée-Bissau, c'est un carrefour de la drogue. Bon, c'est-à-dire c'est la deuxième mort de Amilcar Cabral. Ce qui marche avec Amilcar Cabral, c'est l'archipel des îles du Cap-Vert, où effectivement, il y a eu une passation démocratique de pouvoir quatre fois déjà, et où la situation économique n'est pas caractérisée par la corruption. Bon, c'est formidable. C'est rare en Afrique. Par contre, bon, le Vietnam, ils s'en sont sortis après une période de stalinisme, de post-stalinisme très très dur. Bon, ils ont découvert que l'économie de marché, ben, ça, on ne joue pas avec. Mais le parti reste le parti. Bon. Mais au moins, et ça c'est très important, il y a une justification. La même justification d'ailleurs que celle des Chinois, avec laquelle on peut être d'accord ou pas, par ailleurs. Mais il faut faire de la croissance. Toute révolution qui ne fait pas de la croissance est une imposture. Et ça finit comme une dictature avortée.
Mais donc il y a une certaine usure, une certaine désillusion face à toutes ces révolutions avortées ou qui, une fois qu'elles réussissent, vont un peu facilement dans le mur une fois c'est ça le sentiment, quoi.
Oui, le sentiment, c'est la découverte de la réalité, c'est-à-dire que bon, on finit par se déliaiser et on retombe sur le fameux dialogue entre les Athéniens et les Méliens dans Thucydide. Vous savez, je le raconte très rapidement.
Allez-y, c'est pas de surplus.
Les Méliens étaient des alliés des Athéniens. Ils avaient signé un contrat en disant, bon, ben, si vous faites la guerre à Sparte, on vous envoie un contingent. La guerre éclate, les Athéniens arrivent et disent, bon, ben, on attend votre contingent. Mais ils disent, non, ben, finalement, on ne se sent pas vraiment concerné, on ne tient pas à venir. Mais ils disent, écoutez, réfléchissez, un contrat, c'est un contrat, on vous donne 24 heures. Et bien, le lendemain, ils reviennent et ils disent, ben, c'est non. Ben, il dit, bon, d'accord, écoutez les mecs, ça va vous coûter très cher. Voyez-vous, la justice, ça n'existe qu'entre gens de forces égales. Sinon, cette loi, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. L'espèce, comme les dieux d'ailleurs, est mue par la fureur de dominer. Si vous étiez à notre place, vous feriez exactement comme nous. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas honorer votre contrat, on va tuer vos mâles et prendre vos femmes et vos enfants en esclavage. Ce qui fut fait. Bon, ben voilà. La philosophie de l'histoire, elle est tout entière dans ces quelques phrases de M. Thucydide, 5e siècle avant J.C. Rien n'a changé. Trump, d'une certaine façon, a été l'illustration du politique nu. C'est-à-dire que, bon, bah, d'accord, on est alliés, mais en fin de compte, c'est les intérêts et la force qui tranchent, en définitive. Alors, quels que soient, par ailleurs, les aménagements, etc., à l'heure de la, comment dirais-je, de la décision finale, il s'agit de contraindre.
Voilà. Et donc c'est la fureur de dominer qui vous a déplu au bout d'un moment.
Ben, c'est ce que vous découvrez, c'est-à-dire vous découvrez ce que c'est que l'histoire, quoi, et ce que nous sommes. Nous sommes comme ça, c'est-à-dire que nous sommes déterminés par les rapports de force. Voilà. Alors bien sûr que je souhaite, si vous voulez, que ce soit le plus juste ou le moins injuste possible, mais enfin je ne me fais pas beaucoup d'illusions.
Forze armate del funzionario del popolo è in fronte. Marcia!
Sempre con ella.
Alors tout ça, ça pose aussi la question de votre positionnement par rapport à tout ça, parce que là, on a déjà évoqué rapidement l'Afghanistan, mais si on revient un petit peu en arrière, il faut peut-être rappeler que vous soutenez une thèse, ce qui n'est pas forcément évident vu la manière dont vous êtes entré dans toutes ces affaires du monde-là, sous la direction de l'historien linguiste Maxime Rodinson, en 1975, intitulé « Révolution dans le tiers-monde, mythes et perspectives ». Alors, la question, c'est qu'est-ce qui vous a amené dans la démarche qui n'est pas spéculative, mais qui est en tout cas intellectuelle et universitaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensiez que pouvait vous apporter à vous cette forme de connaissance, peut-être moins narrative que ce que vous faisiez jusque-là, plus analytique? Et inversement, qu'est-ce que vous pensiez vous pouvoir apporter, si ce n'est au monde universitaire, mais au moins aux travaux scientifiques sur ce domaine que vous connaissiez déjà intimement au début des années 70 quand vous faites cette thèse?
Bon, il y a la part, comment dirais-je, dans votre analyse de clarification, par exemple, le mythe révolutionnaire du tiers-monde, c'était la thèse que j'ai soutenue avec Ballandier, Rodinson et Vidal-Naquet, et qui est paru chez Le Seuil, ou Maspero, je ne sais plus, en tout cas qui est en Penguin aussi, et qui a été traduit en une demi-douzaine de langues, ce qui est rare pour une thèse. Et, c'était la démolition, en somme, du mythe tiers-mondiste, en disant la guérilla et le socialisme, la guérilla ne gagne pas automatiquement parce que c'est la guerre du peuple et que la cause est juste, et le socialisme, voyez de plus près. Voilà. Bon, donc c'était une entreprise, si vous voulez, de démystification. Bon, par la suite, j'ai essayé d'être cohérent avec ça, puis je me suis intéressé à autre chose. Par exemple, j'ai fait avec mon copain Rajo le premier atlas stratégique au monde. Il a été traduit en Grande-Bretagne, il a été traduit aux États-Unis, c'est rarissime. Tous les atlas que vous voyez proviennent de cet atlas premier qui a modifié le regard des géographes sur le fait que la Terre est blonde, elle est ronde et que toutes nos représentations étaient plates et avec toujours au milieu l'Europe, à droite le continent américain et à gauche, et à droite l'URSS. Bon, non, tout ça, c'est... On a montré ça autrement, on a montré qu'il y avait des géopolitiques de petits États qui voulait des choses, que Est-Ouest, il n'y avait pas que ça. Et on l'a vu, quand l'URSS a disparu, les uns et les autres se sont manifestés avec leurs propres intérêts. Les Viet, par exemple, ils ont toujours lorgné vers le Laos et le Cambodge. Bon, les Chinois, qui retrouvent leurs traces habituelles, s'étendent sur les routes de la soie. Le Japon a tenté... De dominer une partie importante de l'Asie-Pacifique, etc., etc. Bon, voilà ça. Et puis, il y a aussi les problèmes des minorités. Je me suis intéressé à ça. Je trouvais qu'il y avait des minoritaires qui n'avaient aucun droit. Alors,
Mais c'est quoi l'objectif? C'était ce truc-là, le faire passer, en quelque sorte, dans le domaine de la connaissance académique légitime, c'est ça?
Oui, de la connaissance journalistique, pas seulement académique. Académique d'abord, mais ensuite que les journalistes en tiennent compte. Le Monde, par exemple, il y a 25 ans, il n'y avait jamais une carte. Jamais. Maintenant, il y a des cartes. C'est nouveau. Bon, c'est nous qui avons apporté cette cartographie en 1983 chez Fayard. C'était un atlas qui avait été refusé par Le Seuil, qui avait été refusé par Berger-Levrault, qui avait été refusé en tout cas par 6. Il a fallu que ce soit... Claude Durand chez Fayard qui disent ok, moi je prends le risque, c'est intéressant votre truc, alors que Chodkiewicz, qui était le patron du Seuil à l'époque, m'avait dit mais les Français ils s'en foutent de la stratégie.
Mais c'est intéressant parce que ça renvoie aussi à une autre, c'est une évolution aussi vers une sorte d'autre temporalité, c'est-à-dire vous commencez par un truc pas journalistique parce que vous, enfin si, vous publiez aussi ce que vous observiez, donc on pourrait dire qu'il y a un truc un peu journalistique, mais en même temps c'était pas le positionnement que vous aviez. Mais bon, il y avait un truc de temporalité très courte en tout cas.
Oui, et progressivement,
il y a un truc de plus en plus analytique. Vous revenez sur le mythe du tiers-monde, vous faites des atlas. Dieu sait qu'il y a bien un truc qui concerne le temps très long, c'est les cartes, la géographie et les atlas. Donc C'est quoi? C'est des intérêts qui évoluent. C'est l'idée que on peut pas rester à l'échelle de l'événement et du coup il faut tirer un peu le regard. C'était quoi votre parcours là-dedans?
Mon parcours, c'est l'élargissement de la connaissance aux 6000 années d'histoire écrite. Voilà. Et pas seulement gréco-latine, mais à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à comprendre ce que nous, humanité, avons réussi à produire en art, en pensée stratégique, et enfin, bref, d'une façon générale, au cours des 6000 dernières années. Voilà. C'est un gros boulot, c'est un gros chantier, mais que j'ai trouvé passionnant. J'ai fait, par exemple, un truc qui s'appelle « Géopolitique des empires, des origines à nos jours », bon, qui rend compte de toute notre histoire, et quelle a été la géopolitique de l'Inde, la géopolitique de l'Iran, qui est le véritable empire du milieu, etc. etc. Bon, voilà, c'est un appétit de l'histoire du monde.
Mais alors, donc on a compris que vous avez tâtonné, vous avez fréquenté, vous avez, j'ose presque dire, fricoté avec le monde universitaire sans jamais vous y installer vraiment. Ni dans la temporalité de la recherche, ni dans...
C'est, comment dirais-je, c'est un peu statique et ça manque un peu de savoir de la peau.
Bah justement, il y a un autre univers qui est intéressant parce qu'il rejoint aussi, enfin, il fait aussi le pont entre la théorie de la guerre irrégulière et le savoir de la peau, comme vous l'appelez. C'est le monde militaire. Alors, on imagine bien que c'était pas nécessairement votre tasse de thé au départ dans l'Algérie des années 50 et du début des années 60, que même quand vous étiez l'arme à la main dans les luttes insurrectionnelles, c'était pas la vue de l'uniforme ne vous plaisait pas forcément tellement que ça. Mais en même temps, vous en êtes rapproché. Bon, alors déjà, vous faites l'amitié de venir ici à l'école militaire, c'est bien qu'il n'y a pas d'allergie déclarée. Mais vous vous en êtes rapproché, vous avez notamment publié un ouvrage avec Lucien Poirier, le général Lucien Poirier.
Un monsieur considérable.
Qui est un général, mais qui est aussi un très grand stratège, notamment de la stratégie, de la théorie de la dissuasion. Vous avez publié un ouvrage qui s'appelle Le Chantier Stratégique. Donc, comment est-ce que vous avez vécu, d'abord, comment est-ce que vous le voyez au passé, comment est-ce que vous le voyez désormais, mais comment est-ce que donc vous avez vécu l'évolution de vos rapports avec ce monde-là, le monde militaire, le monde des armées
et... J'avais fait un livre tout seul, très gros, qui s'appelle Anthologie mondiale de la stratégie, qui remettait beaucoup les montres à l'heure en matière de stratégie dans l'occidental. Il y avait là-dedans Byzance, très important.
Alors Byzance. Ça, je veux dire, je l'ai dit un tout petit peu en introduction, mais il y a une grande partie de votre œuvre qui est aussi une œuvre de compilation, qui est, vous avez fait, c'est la stratégie de la guérilla, anthologie mondiale de la stratégie, c'est vous publiez aussi beaucoup de théoriciens étrangers à une époque où ça ne se faisait pas nécessairement beaucoup, et on comprend que c'est aussi probablement par là que vous avez été lu par un certain nombre de gens qui voulaient accéder, qui ont accédé par vous à d'autres auteurs.
Voilà, alors c'est là où j'ai connu Lucien Poirier, c'est là où j'ai connu le général Gallois, etc. Ils ont dit, tiens, c'est très intéressant ce que vous recherchez. C'est une ouverture sur des aspects de la stratégie qu'il faut absolument maîtriser, parce que finalement, c'est avec ces gens-là que nous allons avoir affaire. Ce qui était parfaitement exact, et c'est ce qui est arrivé par la suite. Donc, voilà, cette ouverture, pour moi, était très importante, et j'ai bien aimé, chez certains de ces militaires, la rigueur, la culture. J'ai horreur des types qui pensent que les militaires sont des cons. Pourquoi pas les civils, hein? Et donc, non, j'ai beaucoup eu d'amitié dans ce milieu-là. J'ai connu aussi les généraux étrangers. Petraeus, par exemple, que j'ai rencontré à Mossoul, et d'autres. Je n'ai pas de blocage. Moi, entre parenthèses, j'ai jamais été ni au Parti communiste français, ni pro-chinois, ni rien du tout. C'est-à-dire, j'ai fait mon chemin tout seul, sur des positions très anticolonialistes au démarrage, et ensuite, le plus libre possible sur... Et en plus, en solo, c'est-à-dire que j'appartiens à aucune mouvance. J'ai été payé 2 ans par l'État comme patron du Centre européen d'études des conflits. Le reste, j'ai mené ma barque tout seul, ce qui est quand même un sport très difficile.
Mais puisque vous parlez de David Petraeus, ça nous renvoie vers une partie du monde qu'on a déjà abordée, mais peut-être pas assez, puisque, je l'ai dit, dès le début des années 80, dès 82, je crois, vous êtes en Afghanistan pour voir la lutte des Moudjahidines à l'époque contre l'invasion soviétique. Vous y êtes passé souvent, et puis avec la fin de la guerre froide, vous y êtes un peu moins allé. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous y êtes retourné beaucoup dans les années 2000, donc avec un pont à travers le désordre des années 90, mais à partir de l'invasion américaine de l'Afghanistan, vous y êtes retourné. Donc, d'abord, qu'est-ce que vous êtes allé y voir en Afghanistan dans cette décennie 2000 parce que, voilà, c'est là que c'est intéressant, c'est que vous n'y êtes pas allé aux côtés des talibans cette fois-là. C'est-à-dire, vous y êtes allé du côté, si ce n'est occidental, mais en tout cas, vous étiez pas l'arme à la main dans les montagnes Pashtun, quoi. Donc, qu'est-ce que vous êtes allé y voir à ce moment-là et qu'est-ce que vous avez vu?
Je suis allé voir d'abord qu'est-ce qu'ils faisaient les Russes dans cette affaire entre 80 et 82. Qu'est-ce qu'ils avaient comme chance de pouvoir modifier quelque chose. Et ça m'a amené d'ailleurs à m'intéresser au rôle du Pakistan. Parce que finalement, tout ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup l'affaire des Pakistanais. La plaisanterie des Pakistanais, c'est que nous avons vaincu les Russes avec l'aide des Américains. Et après, on a vaincu les Américains avec l'argent des Américains. Et c'est assez vrai. C'est assez vrai. Vous savez que dans tout ça, si vous n'avez pas d'humour, même noir, vous êtes un peu amer. Donc c'est très important. Cette dimension de l'humour m'a beaucoup aidé, en même temps que la poésie et le savoir. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et tout a changé avec Gorbatchev. En réalité, les Moudjahidines n'ont pas gagné, ils n'ont simplement pas été battus. Les Américains, eux, par contre, ils ont perdu. Les Américains ont perdu, et leurs alliés aussi, d'ailleurs. Moi, j'ai été avec le contingent français, par exemple, dans la zone que nous tenions, là. J'ai vu que... On était, en fin de compte, complètement coincés. L'ordre avait été donné par M. Sarkozy... Je ne veux aucun mort avant les élections. Enfin, on ne fait pas la guerre comme ça. Ensuite, quand il y a eu 10 personnes qu'on a perdues, il est allé montrer sa compassion.
Donc ça, c'est évidemment l'épisode de l'embuscade d'Ouzbin.
Et alors là, il faut dire une chose très importante. Il s'est passé une mutation psychologique extraordinairement importante chez les Occidentaux. C'est-à-dire qu'il y a eu une dimension sociale de la stratégie que beaucoup d'observateurs n'ont pas pleinement perçu, si ce n'est dans ses effets. C'est-à-dire que nous ne supportions plus, soudain, la mort du militaire, et entre parenthèses, du civil non plus. Et on nous a vendu le mythe de la guerre zéro mort. Et à partir d'un certain moment, en ce qui concerne les Américains, c'est la guerre du Vietnam, le choc. D'ailleurs, en 91, la dernière guerre victorieuse américaine, c'est-à-dire une guerre classique avec bombardement, etc. Bon, lorsqu'elle a été terminée, George Bush, le papa, a déclaré « America is back », c'est-à-dire le syndrome vietnamien, c'est fini. Or, en réalité, ce syndrome vietnamien, c'est fini. Tout le monde le traîne maintenant. C'est-à-dire que il n'est plus question de perdre quoi que ce soit dans le monde.
Il y a deux mois. Une guérison, c'est une contagion.
Oui, dans le monde, il y a 2 mois, sous la plume de quelqu'un de très honorable, Michel Goya, colonel, qui sait de quoi il parle, il avait marqué en gros titre combien de temps l'opinion publique française pourra-t-elle supporter de perdre un soldat par mois. Est-ce que cette phrase aurait pu être écrite il y a 40 ans? C'est impensable.
C'est peut-être pour ça qu'elle est pertinente aujourd'hui.
Oui. Et Est-ce que vous imaginez Charles de Gaulle se rendant en Algérie parce qu'on a perdu 10 types dans une embuscade à Palestron? Jamais, on les perdait tous les 15 jours, les 10 types. Bon, et ça faisait partie de la guerre. On a perdu 29 000 types. Bon. Aujourd'hui, on en perd deux. Il faut qu'on l'amène, que tout le monde soit là, qu'ils sont morts victimes de je ne sais quoi. Enfin, ils sont morts. C'est comme si vous disiez, bon, ben, y a un chauffeur de poids lourd, il est mort, et il y a un type qui travaille dans le bâtiment, il est mort. Bon, ben, chacun fait son métier, il est dangereux. Bon, ben voilà, c'est tout. Donc, de ce côté-là, c'est l'expression de notre angoisse psychologique jointe à notre amenuisement démographique. Il y a un siècle exactement, nous étions 33%, nous, occidentaux, qu'on appelle à l'époque blancs, et aujourd'hui nous sommes entre 12 et 14. Et les gens ne le savent pas. Est-ce que les gens savent que, que l'Europe entière représente 7% du monde entier? Non. Non, on croit qu'on est encore nombreux. Bon, mais voilà, voilà ce qui se passe. Le monde est en train de se refaire. Et finalement, les types parlent, c'est, ouais, est-ce que t'es islamophobe ou alors est-ce que t'es islamo-gauchiste, enfin, des conneries, quoi, je veux dire. Non, c'est pas là que ça se passe.
Mais alors, juste pour revenir, pour rester sur l'Afghanistan et sur... Donc, vous y êtes allé, mais en plus, c'est intéressant le dispositif dans lequel vous y êtes allé... Vous étiez à Kaboul, vous donniez des cours, quoi.
Donnais des cours à Kaboul avec un neveu du chef de l'État, qui était mon ancien élève à Singapour.
Donc du chef de l'État, c'est Hamid Karzai,
Pashtoun.
Qui est un Pashtoun et qui, bon, par ailleurs, a une famille énorme.
Pashtoun, très important. Ouais. Très Pashtoun. Parce qu'il m'avait, par exemple, raconté que Najibullah, qui était pendant 3 ans, il avait tenu tête... aux talibans, eh bien, il avait dit, le commandant Massoud lui avait dit, écoute, tu n'es plus en sécurité ici, si tu veux te replier dans la vallée du Panjshir, tu viens avec moi. Et il a dit, il a refusé. Il ne voulait pas devoir sa vie à un non-pachtoun. Ouais. Bon, passons. Alors, ce qui m'a le plus intéressé, c'est qu'avec mes élèves, habillés à l'afghane, nous allions, alors, dans au moins... une quinzaine de provinces pour rencontrer les gens, c'est-à-dire non pas ce qui se disait à Kaboul et ce qui s'y disait pas, mais ce qui se passait effectivement sur le terrain. C'est comme ça que j'ai découvert entre 2006 et 2011 le progrès fantastique qui était fait de l'autre côté. Ces mecs travaillaient. Alors ça aussi.
Talibans là.
Oui, je parle des talibans. Ils travaillaient comme des Chinois, en le sachant ou pas, peu importe. À mon avis, sans le savoir. Mais, dans les villages, c'est eux qui rendaient la justice. Ils avaient une technique d'approche formidable. Première rencontre dans la mosquée, deuxième rencontre avec les sympathisants, troisième rencontre, c'est nous qui rendons la justice. Et rapidement, et selon les normes que vous connaissez, et en plus, on n'est pas corrompu, en tout cas, tant qu'on n'est pas au pouvoir.
Oui, mais c'est intéressant, parce que ça renvoie... On en revient à Mao, peut-être qu'il faut toujours en revenir à Mao sur ces histoires de guérilla, qui sait. Mais ça renvoie à la différence entre la ville et la campagne, et ce qu'on disait au début sur cette importance du rural. C'est un truc que vous écrivez beaucoup, que, bah oui, il y a eu beaucoup d'argent qui est arrivé en Afghanistan, il y a eu beaucoup d'argent, la plupart de cet argent est resté à Kaboul. Et or, l'Afghanistan, c'est quand même pas un pays hyper urbain. Et donc ça renvoie aussi à quelque chose, à dire que bah, en fait, c'est par les campagnes que se joue le succès ou non de la guérilla. Et alors après, bon, l'Afghanistan, c'est vrai, c'est aussi un pays qui est en très forte croissance dans les villes pour plein de raisons désormais. Mais bon, c'est intéressant cette idée que bah, en fait, tant qu'on se fixe pas un peu le nez sur la campagne et les espaces ruraux, bah, en fait, il y a une grande partie du territoire qui échappe et on voit ce que ça a donné en termes d'intervention occidentale depuis 20 ans.
Alors, il y a effectivement le côté rural, mais il y a aussi une chose très importante. Ce qu'on appelle, le déséquilibre. Le déséquilibre, il est dans l'idéologie. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des types qui font leur métier, et de l'autre côté, vous avez des types qui sont décidés à mourir parce qu'ils croient 100% ce pourquoi ils se battent. Et en plus, ils ont la démographie de leur côté. C'est-à-dire que moi, quand je perds 3 types, bon, et moi, quand j'en perds 30, je m'en fous, j'en ai 60 derrière. Voilà. Ça, c'est très important. L'idéologie et la démo.
Mmh. Et donc, vous diriez que c'est... Parce que c'est un peu la question qu'on pose aussi en filigrane, de pourquoi toutes ces révolutions avortées, toutes ces guérillas étouffées dans l'œuf, toutes ces impasses d'indépendance que vous avez vues avec un billet de première classe dans les années 60-70, et pourquoi toutes ces guérillas, mouvements insurrectionnels. Alors après, c'est difficile, il y en a aussi plein qui échouent, mais en tout cas, l'Afghanistan est un bon exemple d'impasse occidentale, l'Irak peut-être aussi dans une certaine mesure.
Alors il y a deux, trois choses. Par exemple, les Latinos, avec toutes leurs faiblesses, il y a eu un handicap. Jamais, aucune de leurs guérillas n'a eu à combattre un adversaire étranger. Le gros avantage pour les Américains, enfin je veux dire pour ceux qui luttaient contre les Américains, c'est que les Américains étaient là. Les Français étaient là. C'est-à-dire vous luttez contre un adversaire étranger. Le reste, c'est de la guerre civile. Bon, gros handicap. Deuxièmement, sentir le mieux les sociétés à tradition étatique. Vous pensez ce que vous voulez de la Turquie, mais il y a une tradition étatique. Vous pensez ce que vous voulez du régime iranien, mais il y a une tradition étatique. C'est-à-dire que, quelle que soit la direction que les mecs prennent, ils savent qu'il y a une volonté nationale. Il y a, un intérêt d'État. Bon, il y en a pour d'autres, pas du tout. Par exemple, les Arméniens, ils se sont fait avoir parce qu'ils ont bêtement surestimé leur aura de victimes chrétiennes qui seraient soutenues de toute façon, etc., etc. Bon, ben, ils sont tombés sur un os. Il fallait, savoir qu'une situation gelée ne reste pas gelée tout le temps, et mesurer, en restant aux aguets, le changement qui s'opère autour de vous, avec une Turquie de plus en plus puissante, avec un Azerbaïdjan de plus en plus soutenu à la fois par Israël, parce qu'Israël trouve intérêt à se trouver en Azerbaïdjan, parce que ça permet de prendre l'Iran par le nord.
Donc là, on parle évidemment du conflit de l'Artsakh d'il y a quelques mois,
ouais.
Et de la défaite assez cuisante des armées, si ce n'est arménienne, mais en tout cas soutenue par les Arméniens.
Oui, bah, ils ont déconné, puis voilà, c'est tout. Je veux dire, les Arméniens ont surestimé leurs chances et ils sont payés de mots. C'est-à-dire, c'est comme ça quand vous êtes plus émotif que stratégiquement calculant, quoi.
Ouais, mais alors, c'est intéressant, parce que bon, on revient en quelque sorte au point de départ qui n'est pas l'autre, mais ceux de vos grands-parents en quelque sorte, qui est l'Arménie. On peut dire que bon, vous avez décidément une inscription très nette dans cette région, puisqu'il y a les voyages en Afghanistan, il y a le lien avec l'Arménie. On peut dire aussi que vous avez un très fort lien avec le Kurdistan, où vous résidez, je crois, une partie de l'année.
Oui, mais je m'intéresse beaucoup à l'Asie orientale, que je place en tout premier. J'ai passé pas mal de temps en Afrique noire. Sur les 50 pays d'Afrique, j'en ai vu 25. Et puis en Amérique latine, ben, je ne vois pas lequel j'ai pas vu.
Alors juste pour rester sur le Kurdistan, puisque c'est un truc que vous voyez pas au quotidien, mais quand vous y êtes, je crois que vous êtes de temps en temps à Erbil, donc vraiment au cœur du Kurdistan irakien. Enfin, je sais pas, comment est-ce que vous voyez la situation de quelque chose, d'un mouvement qui par ailleurs est fascinant, qui est les mouvements kurdes, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y a un mouvement kurde dans chaque pays où il y a un bout du Kurdistan, et puis comment est-ce que vous voyez, on sait que donc, les Peshmerga ont beaucoup fait pour la lutte contre l'État islamique depuis 2015-2016, disons, en alliance avec la troisième dimension fournie par les Occidentaux, on sait qu'il y a eu cet abandon, en tout cas le fait qu'ils sont fait singulièrement avoir par la Turquie qui a pris l'offensive, qui a occupé une bonne partie du territoire que les forces kurdes avaient repris à l'État islamique. Comment est-ce que vous lisez ça, en quelque sorte, pour cette lutte qui est très bizarre, qui est une lutte insurrectionnelle autonomisante des Kurdes, mais qui en même temps a une vraie assise territoriale, qui en même temps n'est pas reconnue, qui a des alliés, qui a des ennemis, mais les alliés sont ambivalents et les ennemis aussi. Comment est-ce que vous voyez, en tout cas, la phase dans laquelle est le mouvement kurde, notamment aux confins, disons, de l'Irak et de la Syrie, puisque c'est là où ils ont tenu le devant de la scène de 2016 à 2019, disons.
Bon, pour être bref et clair, je vous dirais que, premièrement, l'idée d'une perspective d'un État kurde où il y aurait à la fois ce qui est kurde en Irak, ce qui est kurde en Syrie, ce qui est kurde en Turquie et ce qui est kurde en Iran est impossible. Ça, c'est un. Deux, la partie kurde qui a le plus de chances de survivre, c'est la partie qui se trouve en Irak, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Kurdistan d'Irak. Et ils vont réussir à durer parce qu'ils ont réussi à créer une petite bourgeoisie et ils ont un développement. La Turquie estime, à juste titre, que la question kurde est une question vitale pour eux. Et de ce côté-là, ils ne plaisanteront pas, c'est-à-dire que leur intérêt de réduire autant que faire se peut, non seulement les Turcs, je veux dire les Kurdes de Turquie, mais aussi ceux de Syrie, dépasse de loin l'intérêt que nous, Occidentaux, nous portons aux Kurdes de Syrie. Ils ont été très utiles, ils peuvent être encore utiles, on devrait les aider, mais ce qui nous meut pour les aider est infiniment moins puissant que ce qui pousse M. Erdogan à leur nuire au maximum. Voilà, la situation, elle est là, dramatique, très difficile, et ça demande beaucoup de courage et de détermination aux Kurdes de Syrie de tenir, parce qu'ils sont le dos au mur.
Mais alors, bon, on a vu que vous nous avez fait une liste rapide des pays que vous avez vus, des pays que vous avez visités, depuis l'Algérie des années 50 jusqu'au Kurdistan d'aujourd'hui. Où est-ce que vous êtes senti le mieux, Gérard Chalian ?
Le mieux ?
Ouais. Où et quand ? Est-ce que c'était au début, dans ces moments d'exaltation socialisante, les armes à la main ? Est-ce que c'était après, à un moment un peu plus analytique et un peu plus réflexif ?
Je me suis senti vraiment chez moi, au Vietnam. Cette détermination absolue de ne pas céder, ça me paraissait comme une histoire de famille. Ensuite, à vrai dire, partout où il y a eu des rencontres humaines, quand il y a un échange. Quand vous rencontrez des gens formidables et quand, dans certaines sociétés, vous avez la chance de connaître des femmes, chose difficile. C'est le dernier bastion du refus de l'étranger, ça.
Vous êtes beaucoup tombé amoureux dans les luttes révolutionnaires ?
Ça m'est arrivé. Et c'est des moments de grand bonheur, bien sûr. Et puis pour le reste, bon, je trouve que j'aime la langue française. Je dis ça parce que c'est la seule langue dans laquelle je puisse écrire de la poésie. Vous voyez ? Le langage françois m'est extrêmement cher. Et où est-ce qu'on le parle ? Eh bien, ici, quoi. Voilà.
Mais alors, on ne va pas divulguer en quelque sorte votre âge, mais c'est une information qui est assez librement consultable et trouvable en ligne. On peut le dire, c'est apparemment, vous êtes en forme physique très étonnante pour votre âge. Vous êtes d'une santé très impressionnante. Et vous continuez à réfléchir, vous continuez à produire. Vous avez produit vos mémoires. Il y a eu un tome 1 qui est La pointe du couteau qui est sorti déjà il y a un moment. Il y a un tome 2 qui, on espère,
il y a 10 ans. Le tome 2 devrait sortir chez Lafond à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, j'espère.
Mais du coup, la question, c'est qu'est-ce qui vous tient ? Qu'est-ce qui vous fait encore courir à, au-delà de 80 ans, on peut le dire quand même, Gérard Chalian ? Après tous ces trucs, enfin je veux dire, Vous avez assez vécu pour plusieurs vies. Et pourtant, pourtant non. Pourquoi?
Parce que y a rien d'autre que la vie, c'est tout. Quoi. À part la vie, il n'y a rien. C'est tout. C'est... Quand les Juifs trinquent, ils disent « le chayim », ce qui veut dire « à la vie ». Et à que ça. C'est pas santé, c'est à la vie. C'est le truc le plus merveilleux. J'avais un copain qui m'a pas mal déniaisé, c'était un prof, c'est lui qui m'a fait connaître Thucydide. Il disait, moi, je considère la vie comme de grandes vacances entourées de deux zones de néant.
Voilà. Merci beaucoup, Gérard Chalion. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par Apple Podcasts, par SoundCloud ou par mail à collimateur@irsem.fr ou encore sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Tout ça est toujours le bienvenu, tout comme vos notes et commentaires. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.